Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives.
L'affaire Blanche Garneau, chapitre 7. L'enquête piétine, les rumeurs naissent. Et oui, quand il se passe rien, surtout dans les cas non résolus, et que ça traîne et qu'on ne présente aucun suspect, ben qu'est-ce qui arrive? Eh bien oui, comme je le disais précédemment dans les précédentes balados, les gens veulent savoir, veulent trouver, veulent absolument un coupable, donc ça met de la pression. À la fois sur les policiers. À cette époque-là, il n'avait pas l'air à en avoir beaucoup. Il se pressait pas, en tout cas, pour enquêter. Mais bref, ça mettait de la pression quand même sur tout le monde. Ça crée une pression quand même sociale. Et bon, on veut trouver absolument. On n'accepte pas finalement le mystère. T'sais, comme l'être humain est un peu comme ça. Il a besoin de boucher absolument tous les trous pour se rassurer et il n'en veut pas de mystère. Il veut que ce soit clair et tout ça. Mais, hein, comme vous vous en doutez, quand on veut trouver une réponse absolument, ben, des fois, c'est pas toujours la bonne. C'est rarement la bonne même. Donc, voilà. Donc, comme je le disais, sans aucun suspect sérieux, eh bien, les articles de journaux se sont mis... premièrement, ça c'est devenu de plus en plus rare, les articles à propos de l'affaire Blanche Garneau. On s'éloignait, on savait plus quoi écrire finalement. L'enquête de coroner était terminée et ça semblait rien donner du côté des policiers. C'est ça, l'enquête policière, on peut dire qu'elle piétinait. On sait pas trop ce qu'elle faisait, hein, parce que faut être honnête, on sait pas le jour, heure après heure, jour après jour, ce qu'ils faisaient dans le détail, les policiers, parce que, principalement aussi, ben, le dossier de police, et c'est un agent de la SQ qui me l'a confirmé aussi, le dossier de police dans l'affaire Blanche Garneau n'a jamais été conservé, donc on ne l'a pas, on ne l'a tout simplement plus aujourd'hui, alors que ça aurait pu être le cas parce que les dossiers ont commencé à être préservés justement au niveau provincial, en 1920. Et oui, j'ai fait d'autres balados là-dessus justement pour dévoiler le contenu de ces dossiers-là. C'est quand même très intéressant, mais que voulez-vous, ça ne nous en apprend pas sur l'affaire Blanche Garneau. Bon, évidemment, vous aurez compris que ça a commencé à jaser dans la population. Évidemment, bien, le seul suspect qu'on avait à cette époque-là, c'était Martin Griffin, le jeune Griffin, qui avait demandé à Blanche Garneau de sortir avec lui à deux reprises et qu'il avait été éconduit aussi à deux reprises. Donc, c'était, je pense, le principal suspect à ce moment-là. Mais on verra aussi qu'il y a plusieurs autres personnes. On s'en est pas tenu à un seul suspect dans cette affaire-là. Par exemple, on a aussi visé les parents adoptifs. Et oui, rien de moins, principalement, ben évidemment, Michel Baribeau. À cause de son sexe, évidemment, c'est un homme. Et dans ces crimes-là sexuels, bien évidemment, on vise les hommes. Donc, est-ce que sa femme, on pensait que sa femme aurait pu être sa complice ou quoi que ce soit? Bref, je ne dis pas si cette piste-là était sérieuse ou pas. On verra tout ça, on va étudier toutes les pistes au fur et à mesure. Et à la fin, je vais revenir un chapitre sur chaque suspect pour voir qui a le plus d'allure dans ça ou qui en a pas du tout. Mais je pense que une des raisons pour laquelle la population a visé les parents adoptifs, c'est, je sais pas si c'est la seule raison, mais en tout cas, ça en est au moins une, c'est que les parents ont quand même mis plusieurs jours avant de rapporter la disparition à la police. Alors, ça aurait pu être suspect. Moi, je prends ça qu'un gros grain de sel. Surtout à cette époque-là, les moyens de communication. Et quand même, Blanche était une adulte, hein. Faut pas. C'est pas comme si c'était une enfant de 5 ans. Là, on panique plus rapidement. Et là, ça aurait été vraiment suspect qu'on attende plusieurs jours avant de rapporter la disparition. Mais dans le cas de Blanche Garneau, Je ne pense pas. En tout cas, c'est peut-être cet élément-là qui a fait que... Il y en aura d'autres, évidemment, parce qu'on va découvrir un peu le caractère de Michel Baribeau. Bon, mais bref, je ne veux pas aller trop vite ni sauter les étapes. Vous voyez qu'à chaque balado, on a beaucoup de détails et je veux vous laisser justement le temps de les absorber un à la fois. Et comme vous le savez probablement, plusieurs ragots s'inspirent souvent de demi-vérités. Hein. On part d'un petit détail, puis là, on s'appuie là-dessus parce que là, on se dit « Hey, on a un fait, tout ça », mais c'est souvent... une réflexion incomplète ou une façon erronée aussi de réfléchir ou d'analyser, de critiquer. Donc le sens critique, c'est pas dû à tout le monde, malheureusement. Ou ça se développe, ça se pratique aussi. Et comme j'ai déjà dit, le meilleur moyen, c'est d'accepter qu'on s'est trompé et de recommencer. Donc à chaque fois, on se perfectionne. Et parce qu'il y a des gens qui vont trouver une petite idée, par exemple, vont dire « Ah, c'est ça! » Ils adorent tellement leur idée qu'ils vont rester accrochés à cette idée-là et n'accepteront jamais de revenir en arrière pour voir qu'il y a d'autres choses de plus logiques à côté aussi. Donc ça, c'est une attitude malheureuse et ça ne fait pas, comme vous le savez, des bons enquêteurs. Mais une de ces demi-vérités, ben, ça part justement de la conclusion... d'une déduction hâtive, je dirais, du constable Mallard, qui a alimenté évidemment les ragots selon lesquels il y aurait des hommes qui seraient passés par la rivière Saint-Charles. Bon, ça, ça a continué à prendre de l'ampleur de ce côté-là. Et bon, selon cette version-là, ben, des hommes seraient venus par la rivière déposer le corps dans les broussailles. Bon, mais là, vous savez, à la balado précédente, ce qui a été dit à propos justement des broussailles qui ont été piétinées ou pas. Donc, Mallard s'est un peu trompé ou a mal vraiment observé parce qu'il est en contradiction là-dedans avec un jeune homme qui lui a dit que les broussailles avaient été piétinées entre la scène de crime et la voie ferrée du tramway. Donc, ça vient pas dire du tout. Ben, on a remarqué que ce sentier-là qui a été tapé, dans le fond, ça veut même pas dire que ça a été fait par le ou les tueurs, mais au moins c'est plus logique parce que Blanche Garneau arrivait de la voie ferrée du tramway. Et si elle a été attaquée sur la voie ferrée et ensuite entraînée dans le boisé, ben là, ça devient plus logique à ce moment-là que le sentier a été tapé. Il y a des gens qui ont passé là, donc c'est-à-dire la victime et son agresseur. Alors, du côté de la rivière, évidemment, ça fait pas vraiment de sens, mais ça continue quand même à faire du sens pour certains lecteurs, là, et certains journaux aussi. Et même que je dirais, malgré l'illogisme de cette théorie-là, ça persiste encore, hein. Il y en a encore qui pensent à cette image. Et aussi, le fait qu'il y a eu plus de tueurs, on va en parler un peu plus tard, mais qu'il y aurait deux fils de députés qui auraient été impliqués dans ça. Et je vais vous le dire, c'est tellement puissant, cette mentalité-là, que, parmi vous, il y en a peut-être là, qui ont déjà, qui sont quand même assez au courant de l'affaire Blanche Garneau, et les autres, pas du tout. Je dirais même que c'est la majorité des Québécois ne connaissent pas vraiment bien l'affaire Blanche Garneau, ou pas du tout. Mais j'ai fait une conférence là-dessus il y a quelques années, dans un monde où, une petite place là, de généalogie, tout ça, et le présentateur, j'avais le goût de sincèrement lui arracher la tête parce que il m'a pas parlé avant la présentation et moi, je m'en venais détruire toutes les théories. Celle-là, entre autres, et toutes les théories des suspects pour en venir à ce qu'on verra finalement à la fin de la série. Et là, il me présente, puis il parle des rumeurs, puis que c'était politique impliqué là-dedans. Là, j'avais le goût de m'enfuir, puis de dire, c'est pas ça du tout, mon histoire, là. Fait que, quand j'ai présenté ma conférence, après, je démolissais un élément à la fois, tout ce qu'il venait de dire. Alors, voilà, c'est quand même... mais c'est pour dire que la rumeur persiste. C'est une perception, une sensation, et ça reste longtemps après. C'est un peu comme un personnage, si je prends par exemple, c'est peut-être pas le bon exemple, mais si je prends René Lévesque, au moment où il était élu en politique, où il était vivant, on se souvient de plein d'affaires, on le voyait à la télé partout, le souvenir est présent, du moment présent, c'est pas la même chose, tandis qu'après un certain temps, après son décès, tout ça, on va retenir certaines choses. Et c'est ça, c'est de la perception qu'on va retenir. Est-ce qu'elle est fidèle à la réalité? Des fois oui, des fois non. Et pour les crimes, c'est un peu pareil. On va retenir l'essentiel. Pensez simplement, encore une fois, je veux de la pauvre Cédrica, mais je la prends souvent comme exemple parce que c'est un cas qui a marqué tout le Québec et c'est quand même rare que ça marque tout le Québec. Donc, ça rejoint plus de monde quand on la prend comme exemple. Mais déjà, on retient des choses, des éléments, et on en retient moins. Il y a d'autres qu'on retient moins. Et vous retenez ceux que votre mémoire veut retenir aussi, quelquefois. Donc, je dirais pas lesquels, mais parce que c'est différent pour chacun. Mais ça va vous laisser une perception de ce cas-là qui va rester probablement longtemps et qui va être erroné parce qu'il y a des éléments que vous n'aurez pas retenus. Donc, vous n'aurez pas l'entièreté du dossier en tête, si on veut. Et il y a même des journaux qui reprochaient aux autres journaux de faire n'importe quoi. Donc, on se critiquait entre médias. En effet, le 13 août 1920, le Franc-Parleur, qui était un hebdomadaire publié par Raoul Renault, lui a reproché à certains journaux, il les nommait pas, en tout cas je ne penserais pas, de faire de la sensation en faisant circuler toutes sortes de rumeurs et toutes sortes de raconteurs et en nous rebâchant tous les jours que la police faisait son devoir, qu'elle était sur une nouvelle piste. Et je ferme les guillemets, j'ai fait une petite citation ici. Renault reprochait aussi aux forces de l'ordre de n'avoir fait aucune démarche sérieuse dès la disparition. Ben là-dessus, j'y donne pas mal raison. Alors, ce Raoul Renault-là sortait un peu du lot. Je pense que c'est un des seuls journalistes en 1920 qui prenait à cœur vraiment et cette affaire-là et de façon aussi sérieuse. Et c'est aussi probablement lui qui a été le premier à critiquer le travail des policiers, parce que c'est vrai, là, il foutait absolument rien. Et comme on l'a dit, l'auréole à casse, quand il était appelé pour qu'on lui confie l'enquête, premièrement, ben ça, c'était pas de sa faute, faut l'excuser. Il relevait d'une maladie, donc il n'avait pas pu s'en occuper avant. Mais du moment qu'on lui confie l'enquête, une enquête de meurtre, c'est pas rien, là. On le savait dès le départ. Lui, il s'en va rencontrer les gens, il s'en va rencontrer les parents adoptifs, tout ça, alors qu'il aurait dû commencer par la scène de crime et ceux qui ont été témoins de la scène de crime, et ensuite aller voir le pathologiste et tout ça avant d'aller voir les parents. Donc, bref, il a manqué une belle occasion de... Mais les protocoles policiers n'étaient pas établis probablement à cette époque-là, c'est assez clair, en tout cas, qu'il n'y en avait pas, ou s'il y en avait, ils ne les ont pas respectés. Ils ont fait un peu n'importe quoi. Et justement, Raoul Renault, il écrivait ceci, c'était une question qu'il posait. « Mais a-t-on procédé d'une façon intelligente après la découverte? » Voyez-vous, il remettait même en question la procédure d'enquête. Donc, ça voulait dire que les gens étaient quand même au courant d'une certaine logique d'enquête. Peut-être même plus que les policiers, c'est quand même assez incroyable, mais on sentait là, qu'il y avait quelque chose, donc les policiers n'avaient pas d'excuses de ce côté-là pour la qualité de leur enquête. Là. Et comme je disais, la scène de crime n'a pas été protégée, et on a vu que dans l'affaire Cordelia Vio en 1897, la scène de crime avait été protégée, donc on est 23 ans auparavant, donc ça se faisait au Québec, et en plus dans un village. Alors que là, Blanche-Garneau, on est en pleine ville de Québec qui se voulait cosmopolite et tout ça. Donc, voilà, c'est un autre clou là, sur la tête de l'incompétence policière. Raoul Drenot aussi proposait même, lui, il disait pourquoi on n'avait pas coupé toutes les broussailles dans un rayon autour de la scène de crime pour justement trouver... des objets, on ne sait pas, des indices finalement. Donc il proposait, c'était quand même pas si bête, au moins il réfléchissait toujours un peu mieux que les policiers. Donc la présence dans le fond du franc-tireur, donc du journal de Raoul Renault, C'était quand même, ça venait faire contraste, là, parce que d'un côté, on avait les journaux qui la plupart des journaux disaient n'importe quoi, comme s'ils étaient véritablement en panique, et lui qui écrivait quand même de façon assez logique, en tout cas, vraiment, là, il y avait un effort, c'était peut-être pas parfait tout le long, mais quand même, il y avait vraiment un effort de vouloir faire quelque chose, et c'était quand même plus logique que la moyenne. Et il se demandait même aussi si c'était pas la police provinciale qui devrait prendre l'affaire en main. Et son propos, d'ailleurs, traduisait peut-être une tendance sociale de l'époque. Et je cite ici, il écrivait « Une vague de crimes souffle sur notre province depuis quelque temps. Il faut l'enrayer en faisant des exemples et non pas en laissant les coupables impunis ou en les élargissant avec une semonce, ou encore en leur donnant une légère condamnation. Si la justice devient impuissante, le peuple finira par se faire justice lui-même. Ce sera alors l'anarchie dans toute sa hideur. » Et je ferme les guillemets. Ben, il a quand même pas tort, notre monsieur Renault, parce que, bon, ici, on n'a peut-être pas vraiment vu ça, mais quand les autorités prennent pas mettent pas leur culotte finalement, ben c'est la population parfois dans l'histoire là, qui se faisait justice elle-même. Et ça n'a jamais rien de bon. Vous voulez des exemples? Ben je pourrais en trouver assez facilement du côté de la conquête de l'Ouest, des shérifs incompétents ou des marshals incompétents qui faisaient rien ou qui étaient corrompus parce qu'ils voulaient pas réagir devant certaines bandes de bandits parce que ça rapportait, entre autres des voleurs de bétail et tout ça. Ben la justice se faisait la population se faisait justice elle-même à ce moment-là. Et on sait qu'il y a eu des lynchages, donc voilà, ça se faisait là, et ça se faisait aussi pas juste au Far West là, j'imagine que Moyen-Âge et tout ça, hein, c'est assez facile à imaginer. Et on trouve aussi dans les journaux l'Action catholique du 25 août un autre cas d'agression d'une jeune femme qui s'est fait agresser. C'est quand même intéressant parce que là, on cherche là, on cherche sur la piste, et moi je l'ai fait aussi, savoir s'il n'y avait pas d'abord un tueur en série qui rôdait à cette époque-là. Il faut quand même fouiller beaucoup. Ou un violeur en série. Il y avait peut-être quelqu'un qui rôdait et tout ça. Donc, dans l'Action catholique, ce qu'on écrivait, c'est que depuis le drame horrible du parc Victoria, les meurtriers de Blanche Garneau, vous aurez compris qu'on parle des meurtriers au pluriel, mais rien de prouvé encore, là. Faites attention à ça. Les meurtriers de Blanche Garneau sont demeurés impunis et hier, d'autres individus ont tenté de répéter le même acte criminel. Oui, en effet, ici, c'est une jeune fille de 18 à 20 ans, Mademoiselle Bella Baudouin de Sherbrooke, pensionnaire au numéro 67 rue Buade, fut attaquée par deux hommes sur les Cofields, c'est-à-dire les plaines d'Abraham. Et je ferme les guillemets. Donc, voilà, il y a une autre agression là, qui se passe le 25 août. On est plus d'un mois après le meurtre de Blanche Garneau, mais quand même, on ne sait jamais. On va garder ça en mémoire, on va l'étudier un peu plus tard. Ce qu'on raconte, c'est que Bella Baudouin, qui était en visite à Québec, comme le dit justement l'article, avait choisi de longer la terrasse de la citadelle lorsque deux hommes l'ont saisie pour tenter, selon le quotidien, de la baïonner. Donc, il voulait la baïonner avant de... Vous aurez deviné le reste. Elle a cependant lutté et a crié. Ses cris ont attiré l'attention de certains passants qui, eux autres, ont alerté la police du poste numéro 6. C'est ce qui a convaincu, d'ailleurs, bon, tous ces cris, tout ce brouhaha donc, qu'elle a fait. Heureusement, ça lui a sauvé la vie. Ben, la vie. On ne sait pas si elle était sous le point de se faire assassiner, mais ça l'a sauvée certainement d'une agression plus grave. Donc, ça a convaincu ces deux agresseurs de lâcher prise et de prendre la fuite. Et ce qu'on a raconté à l'époque, là, je me fie toujours sur les journaux, à l'arrivée de trois policiers, dont le constable Thorne, Bella pleurait à chaudes larmes. Puisqu'on acceptait déjà l'idée selon laquelle il y avait deux agresseurs dans l'affaire de Blanche Garneau, les parallèles se sont faits rapidement. Donc voilà, là ici on avait la preuve qu'il y avait deux agresseurs, il y a eu des témoins, Même la victime était là pour en témoigner. Alors voilà, on a fait des parallèles. Est-ce que c'était possible que ce soit les mêmes agresseurs qui s'en étaient pris à Blanche Garneau? Et le même jour, on a annoncé l'arrestation de l'un de ses assaillants, donc des agresseurs de Mme Beaudoin. Il s'appelait Patrick Ryan. C'était un homme âgé, qu'on disait à l'époque, de 57 ans et qui demeurait sur la rue Champlain. Il a été appelé au poste de police. Mademoiselle Beaudoin l'a reconnu comme l'un de ses agresseurs et Ryan a été aussitôt conduit à la cour des sessions de la paix pour répondre à des accusations. Bon, ici, c'est quand même, l'agression se passe quand même assez près dans le temps du meurtre de Blanche Garneau. Donc, on pourrait croire juste un mois de différence, c'est pas beaucoup. Est-ce que les deux hommes, après avoir tué Blanche Garneau, ont paniqué un peu, puis ont dit « Hey, on va rester tranquille quelques semaines avant d'attaquer une autre jeune fille? » C'est possible, ce qui pourrait expliquer qu'il y a eu un mois de décalage. C'est quand même assez rapide aussi, si on pense à certains tueurs en série qui ont plusieurs mois entre les crimes, ou des fois il y en a qui frappent plus rapidement, ça dépend. Mais voilà, quand on parle de série de crimes, c'est toujours assez malléable là, le temps qui se passe entre chaque crime. Donc, est-ce que c'est possible que Patrick Ryan soit l'assassin de Blanche Garneau? Donc voilà, voyez-vous, il y a un suspect supplémentaire qui s'ajoute là à travers les journaux. C'est quand même pas rien. Je l'ai vérifié dans les archives judiciaires de Québec. Comme je vous disais, j'ai pas juste consulté le dossier de Blanche Garneau, j'ai consulté d'autres dossiers pour essayer de trouver des suspects. Et j'ai retrouvé la trace dans les archives de M. Patrick Ryan, mais... Oui, suspense. On va voir ça à la fin de la série seulement parce que je veux garder mon ordre chronologique. Mais ça pose des questions, évidemment. Ça vient complexifier l'affaire. Ça rajoute un suspect. Et pour ceux et celles qui se posent déjà la question, étant donné qu'il y était deux agresseurs dans le cas de Mme Beaudoin, eh bien oui, Patrick Ryan a été identifié. J'avoue que 57 ans, c'est un peu vieux pour être un agresseur actif. Mais voilà, c'est ce que je voulais en venir. Le deuxième agresseur ne semble n'avoir jamais été identifié. Et le plus curieux, ben, c'est que la police, en tout cas, on ne mentionne rien sur le fait que est-ce que la police a pris cette piste-là au sérieux? Franchement, on n'en a aucune idée. Peut-être qu'on l'a oublié rapidement. En tout cas, les journaux l'ont oublié rapidement parce que Patrick Ryan est retombé dans l'anonymat. Mais... moi, je m'en suis chargé de ne pas le laisser tomber complètement dans l'anonymat. On va y revenir vers la fin de la série, donc dans les derniers chapitres de l'affaire Blanche Garneau. Donc, le temps continue à passer. L'automne 1920 s'égrène tranquillement. On en arrive au 15 novembre. Ben là, c'est évidemment, il y a plusieurs articles de journaux là, que j'aurais pu citer, mais j'ai retenu ceux qui sortaient un petit peu plus de l'ordinaire. On en arrive au 15 novembre. Dans ce qu'on appelait à l'époque la Revue moderne, il y a une auteure, une auteure E, je dis bien. Je dis pas autrice parce que je déteste ce mot-là. Donc, une auteure qui se faisait appeler, c'était un pseudonyme, qui se faisait appeler Madeleine, tout simplement, voilà. Donc, elle voulait garder son anonymat. Elle a écrit ceci. Je vais vous le lire d'abord. Il ne semble pas que le meurtre abominable de Blanche Garneau ait soulevé dans l'opinion féminine la tempête d'indignation qui a marqué le procès de la femme Gagnon, c'est-à-dire Marianne Hood. Pourtant, ce drame est autrement plus sinistre que l'autre et appelle une vengeance terrible. Et je ferme les guillemets. Et en sous-entendu, évidemment, je suis pas mal certain ici qu'elle parlait évidemment du viol de Blanche Garneau. Mais ici, la question, ce qui est intéressant, c'est que c'était de savoir si elle était honnête envers les lecteurs pour utiliser l'échelle de la gravité, pour comparer deux crimes qui sont totalement différents, qui n'ont aucun lien. Alors là, on a la petite Aurore qui a été maltraitée, qui est une enfant maltraitée, sous l'emprise, sous la tutelle de sa belle-mère. Et ensuite, on a Blanche Garneau qui est un crime sexuel. c'est vraiment pas le même type d'homicide, là. C'est vraiment pas la même chose. Et ce qu'elle utilise aussi, c'est que là, elle compare les deux crimes. Elle dit qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre. Et j'ai toujours eu de la difficulté avec l'échelle de la gravité. C'est sûr que quand on jase entre amis, on se dit, ben le meurtre d'un enfant, moi, ça me touche plus qu'un meurtre d'adulte. Mais ça devrait pas nécessairement à la gravité. Un homicide est un homicide et tous les homicides méritent d'être résolus. Les enquêtes doivent être bien menées dans tous les cas. On ne devrait pas se fier sur l'échelle de la gravité. Et il y a la gravité aussi du crime en tant que tel, et pas juste sur l'identité de la victime. Par exemple, la gravité de l'arme utilisée. Si on pense à Andrew Day en 1929 à Trois-Rivières qui assassine sa femme et ses 7 fils à coups de hache, ben oui, c'est grave. Il nous vient des images épouvantables dans la tête, sanglant. Mais si une personne, comme elle saute au cochon, tue 23 personnes avec une bombe, est-ce que c'est moins grave? Parce que le moyen utilisé a été spontané, a fait moins de sang, moins de... Tu sais, voyez-vous, là, l'affaire, il n'y a pas de moyen propre ou il n'y a pas de... C'est très difficile. C'est pour ça que je me pose encore des questions sur l'échelle de la gravité. Est-ce qu'on devrait l'utiliser pour empirer, par exemple, les accusations ou les sentences? C'est, en tout cas, bref, là, je me lance peut-être dans un débat qui serait pas fini ce soir, en tout cas. Au moment où cette fameuse Madeleine publiait son texte, là, c'était un texte plus une revue, c'était pas un journal quotidien là, qui rapportait des faits, ça semblait être un journal plus pas romantique, où bon, il rapportait des poèmes ou des histoires un peu, tout ça. On s'inspirait de tout et de n'importe quoi. Mais à ce moment-là, il ne faut pas l'oublier, là, les journaux parlaient de plus en plus de deux suspects dans l'affaire Blanche-Garneau. Moi, être bien sincère avec vous, je ne sais pas pourquoi qu'on s'est mis à parler presque toujours de deux ou de plusieurs assassins. Parce que véritablement, souvenez-vous, ou réécoutez les balados précédentes, il n'y a pas vraiment d'éléments qui démontrent qu'il y a eu deux assassins. On va y revenir plus en détail en temps et lieu, mais les journaux semblaient avoir pris pour acquis qu'il y avait deux assassins. On ne sait pas, c'est une tendance qui a pris comme ça. Madeleine, la fameuse Madeleine, se questionnait, était un petit peu plus juste peut-être dans ce sens-là. Elle se questionnait à savoir si il y en avait un, deux ou trois assassins. Elle a aussi évoqué qu'il y avait deux autres crimes impunis à cette époque-là, dont celui d'une petite Michaud qui avait été retrouvée sur un terrain vague de Westmount et celui de Blanche Dubois, dont elle ne pouvait se rappeler le nom, mais par déduction, on sait que c'est ce cas-là dont elle parlait. C'est une jeune fille qui a été assassinée à Québec dans une boutique de chaussures en 1914, mais on va y revenir au chapitre 33, parce que ça pourrait avoir un lien avec l'affaire Blanche-Garneau, et c'est pour ça que je l'ai étudié à fond. J'ai même retrouvé son dernier repos à Blanche Dubois. C'est une coïncidence là, qu'elle se prénomme Blanche aussi. Là. Il y avait peut-être c'est un prénom à la mode à cette époque-là. Mais voilà, la petite Blanche Dubois ne l'a pas eu facile non plus. La fameuse Madeleine, qu'on ne saura jamais qui elle était finalement, se questionnait aussi une question là, qu'elle posait, et je vais la lire. Comment se fait-il que la police ne puisse jamais venger de pareils forfaits? Voyez-vous les termes utilisés à l'époque? Bon, forfait, c'est plus tellement utilisé là, pour décrire ces crimes-là. Mais venger, franchement, la police, c'est pas son devoir de venger les crimes. C'est de les résoudre, de les régler ou d'accumuler des éléments de preuve pour que ça puisse servir ensuite, lors d'un procès, à des procureurs. Mais voilà, tu sais, c'est quand même le ton, c'est quand même intéressant aussi. Il n'y a pas juste l'aspect criminel, il y a l'aspect d'infolinguistique là, qui peut être intéressant quand on écoute ou qu'on revient dans le temps. Je dirais pas que c'est cocasse, des fois ça l'est, là, c'est selon les mots utilisés. Mais voilà, c'est très, très, très différent de notre époque. On s'entend plus tard. Et pour preuve, je vais citer un autre bout de son texte de Madeleine. Et je cite « Voilà la question qui se pose nettement à l'heure qu'il est et qu'il convient de résoudre immédiatement. Des raconteurs prennent corps qui sont effroyables. Des accusations ont été lancées qui salissent. Néanmoins, le plus complet silence a accueilli les articles qui fouillaient les consciences et en appelaient à des explications que la police ne saurait attendre plus longtemps. » Et je ferme les guillemets. Je ne sais pas si vous lisez dans mes pensées déjà, mais c'est le genre de texte qui sert à rien, qui ne fait pas avancer les choses, mais vraiment pas. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, c'est quasiment de la poésie. Oui, vous êtes peut-être rendu compte que indirectement, je viens de traiter de la poésie de ce qui sert à rien. Mais bon, bref, c'est ça. Dans les cas de crime, ce genre de texte-là n'a pas sa place. Quand même qu'on commenterait à la Denise Bombardier pendant des heures, on s'en calisse. Désolé, mais c'est ça. C'est le genre de... C'est pour ça que je l'ai mis dans mon livre, cet extrait-là. Voilà, tu sais, il y a des gens qui écrivent, qui s'en mêlent. Là, tout le monde veut s'en mêler parce que ça devient populaire tout d'un coup. Tout le monde se sent touché, ça je comprends, mais c'est pas parce qu'on est touché qu'on est obligé de parler. Hein. On peut garder ça pour soi-même, puis ça va être bien correct. D'un autre côté, ben, elle a salué aussi les efforts du journal Le Franc-Parleur, comme on a dit tantôt, qui ne se gênait pas pour dénoncer l'inaction des forces policières. Là, on va faire attention, parce que oui, on a parlé là, qu'il y a des éléments incompétents, mais concrètement, sur le terrain, on ne sait pas ce qu'ont fait les policiers. Ils se sont peut-être tournés les pouces toute la journée, mais ils ont peut-être aussi interrogé des gens, essayé de relever des indices dans les parcs, des gens que Blanche connaissait ou peu importe. C'est possible qu'ils aient fait leur travail de base, mais c'est qu'on n'a pas de trace de ça dans le dossier de police parce que le dossier n'a pas survécu. C'est le dossier judiciaire qui a survécu. Je vous expliquerai la différence. Je l'ai déjà fait à un moment donné, mais c'est vraiment deux différences. Le dossier judiciaire, c'est tout ce qui concerne à partir de l'accusation jusqu'à... le procès et tout ça, et même ici, on va même avoir plus que le procès, on va avoir une autre enquête, et même celle de la Commission royale. Je vous garde un petit punch pour plus tard, je ne dévoilerai pas tout. Pour terminer sur cette fameuse Madeleine, elle comparait encore, elle a continué à écrire pour comparer les deux crimes, là, celle de Aurore Gagnon et de Blanche Garneau, puis finalement, on comprend que elle trouvait le meurtre d'Aurore Gagnon moins grave parce que la fillette était morte en préservant sa chasteté. Parce qu'elle n'a pas été violée, le meurtre d'Aurore Gagnon était moins grave. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais est-ce que parce qu'on a été violé, c'est plus grave? Premièrement, on ne sait même pas si Blanche a été violée avant ou après sa mort. C'est quand même un élément à se poser comme question. Et est-ce que le meurtre d'une fillette de 10 ans est moins grave parce qu'elle n'a pas été violée? Dois-je vous rappeler qu'elle avait 54 plaies sur le corps, des brûlures, etc., au tisonnier? Bref, hein? Vous lirez mon livre pour avoir tous les détails de l'autopsie. C'est assez épouvantable. Donc voilà, c'est un peu des réflexions du temps. Je vais m'arrêter là. On en a fait d'autres, mais là, je pense que c'est assez. Comme j'ai dit, ça ne fait pas avancer l'enquête. Mais ce chapitre-là aura servi justement à démontrer le délire journalistique, tout ce que les journaux pouvaient écrire. C'est sûr qu'aujourd'hui, ils s'en font encore des erreurs. Les journalistes, là, quand ils disent, c'est sûr que ils ont des tribunes pour parler souvent et de dire qu'ils font du bon travail, se flatter de la bedaine entre amis, voilà. Mais ils font des erreurs comme tout le monde. C'est sûr que j'en conviens, des erreurs probablement moins graves que celles qu'on a vues là, en 1920. Mais quand même, il faut faire attention. La position journalistique, elle est là pour informer, grosso modo. Mais pour ce qui est des crimes, je veux dire, là, je parle toujours moi, dans la version des crimes. Si vous avez une inondation, comme c'est arrivé récemment, Même dans un lieu où je travaille, les journalistes, les médias, c'est votre source d'information primaire. Donc, je veux pas les critiquer, c'est pas mon but. Mais je dirais que dans 99% des sujets qu'on entend à gauche, à droite, aux nouvelles, les médias, ils font généralement une très bonne job. En tout cas, je peux pas vérifier sur tous les sujets, je suis pas un spécialiste des autres sujets. Mais je pense que, bon, ce qui nous rapporte sur la politique, c'est sûr que c'est une question de perception, la politique, mais bon, tout ce qui nous rapporte là-dessus, les faits divers, les accidents, bref, les catastrophes naturelles. Et quand je dis faits divers, c'est souvent les faits divers qui ne se rendent pas nécessairement en procès. Mais quand on parle d'homicide, ou la plupart des cas qui se rendent en procès, c'est différent, parce que là, si vous avez accès au dossier judiciaire, vous allez en savoir pas mal plus que les articles qui ont été écrits à gauche et à droite, et vous allez vous... Naturellement, si vous faites comme moi, puis que vous en faites une habitude, vous allez vous détourner tranquillement des articles de journaux, parce que ça devient vraiment secondaire, même tertiaire. Vous allez y jeter un coup d'œil des fois parce que par curiosité, pour comparer. Mais voilà, c'est vraiment un autre monde. C'est pas à traiter comme un accident d'auto ou la mort d'un chien. C'est ça, c'est vraiment plus particulier à ce moment-là. Mais bon, voilà, vous avez compris maintenant que dans les affaires non résolues, et même à cette époque-là, eh bien, oui, ça peut partir dans tous les sens. La société cherche un coupable à tout prix. Et il y a des leçons à tirer de tout ça. On va y revenir en conclusion vers la fin. Mais il y a des leçons à tirer de tout ça, dans le sens que souvent, on va critiquer la police. C'est très facile de critiquer la police parce qu'ils ont un devoir de réserve et on ne sait pas ce qu'ils font. Et on n'a pas à le savoir non plus, à les suivre dans leur travail. Parce que c'est du confidentiel et tout ça. On peut critiquer aussi les procureurs, on peut critiquer le système judiciaire, tout ça. Mais quand est-ce qu'on va se critiquer nous autres mêmes? Ça, c'est pas mal plus rare. Moi, je le fais, j'essaie de le faire et j'en suis rendu à un point que quand il y a des cas célèbres, surtout, j'attends la fin de l'histoire avant de me prononcer. Et des fois, je sens pas le besoin de me prononcer vraiment. Je l'ai fait avec l'affaire Guy Turcotte. Je pense que c'est la première affaire que je l'ai mis en pratique. Tout le monde me demandait qu'est-ce que tu penses de Guy Turcotte? Oui, c'est épouvantable qu'il ait assassiné ses enfants. Mais d'un autre côté, j'attendais le procès, j'ai suivi, j'ai même lu le livre de Maître Fortin là-dessus. Mais je sens pas le besoin d'émettre une opinion sur un crime. C'est déjà un drame épouvantable de dire que oui, c'est un pas fin, c'est un ci, c'est un ça. Ça ajoute quoi au dossier? Je me le demande. Donc, c'est pareil pour Cédrica qui est resté non résolu en plus. Donc, je sens pas le besoin de partager mes idées. J'essaie de rester analytique, si on veut, mais voilà, il y a des gens qui se sentent le besoin de réagir tout de suite. Et c'est ce qui a été fait en 1920, et c'est ce qui a été fait aussi avec l'affaire Cédrica. Donc, c'est là le lien, je pense, que j'ai dressé en écrivant mon livre sur Blanche Garneau, entre cette affaire-là et celle de Cédrica, donc à pratiquement un siècle d'écart. C'est le comportement de la population qui n'a pas vraiment changé. On voulait des réponses, on pensait qu'on avait un assassin ici et là. Il n'en manquait pas beaucoup nécessairement pour... je ne veux pas être dramatique dans ça, mais il n'en manquait peut-être pas beaucoup pour, comme à l'époque de l'Inquisition, de lyncher la personne qu'on pensait coupable sans avoir fait de procès puis sans être sûr à 100% que c'était le bon coupable. Donc, il faut faire attention, on peut se tromper. Et vous allez voir qu'on peut se tromper royalement. Dans l'affaire Blanche-Garneau, il y a eu tellement de suspects que c'est impossible qu'ils soient tous coupables. Puis des fois, on se dit, à cause de ça, il aurait pu. Puis, tu sais, ils sont quand même tous sérieux, puis tous pas sérieux en même temps. C'est ça qui vient mêler les cartes, comme on dit. Donc, il faut revenir à la base, et c'est ça qui est très important. on va en éliminer assez facilement des suspects vers la fin, mais pour de suite, je vais vous laisser la présence de chacun. Donc, au prochain chapitre, on va voir qu'il y a une première piste sérieuse qui s'est développée vers la fin de l'année 1920, donc en décembre. Mais pour l'instant, on va récapituler juste un petit peu avant de vous laisser. Le premier suspect, évidemment, ben, ça a été Martin Griffin. Est-ce qu'il va rester suspect jusqu'à la fin? Ça, c'est pas, je ne le dis pas tout de suite. On a vu les parents adoptifs, Michel Baribeau, entre autres, qui s'ajoutent comme suspect. Est-ce qu'il aurait pu s'en prendre à sa propre fille adoptive? Un élan de vouloir la violer tout à coup. Je vous laisse là-dessus. On a vu aussi qu'il y a des mystérieux personnages qui auraient pu l'apporter là, en canot par la rivière Saint-Charles. Ça aussi, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et il y a le fameux Patrick Ryan qui s'est prouvé que c'était un agresseur ou un violeur déjà de jeune femme. Et je vous rappelle que Bella Baudouin avait à peu près le même âge que Blanche Garneau. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et comme je vous l'ai dit, au prochain chapitre, la situation va se transformer complètement. Un suspect, dans le fond, c'est pas la police qui va le trouver, le suspect va se dévoiler de lui-même.